Bonjour, samedi 29 avril, merci d'être au rendez-vous. Nous allons, comme chaque samedi, pour vous revenir sur 7 jours d'actualité, avec bien sûr les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Nous allons partir pour la Syrie, le Venezuela et la Turquie dans un instant. Il sera question du premier tour de l'élection présidentielle en France après le flash. Mais écoutons tout de suite les deux candidats du second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'était dimanche soir.
Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France. Le président des patriotes face à la menace des nationalistes.
Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur parcours et leur vote au premier tour, à me rejoindre. Je les appelle à sortir des querelles périmées, des a priori et des ressentiments, parce qu'il y va de l'intérêt supérieur du pays. Vive le peuple français, vive la République, vive la France!
Dans une semaine d'actualité, il va aussi être question de l'Afrique, bien entendu. Et notre invité, notre confrère Sédic Abba, journaliste au Monde Afrique. Bonjour Sédic Abba.
Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous les auditeurs d'une semaine d'actualité.
Sédic, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et vous revenez du Niger pour lemonde.fr. On va en parler, on va prendre le temps de parler de la situation au Niger, à Difa et ailleurs, dans d'autres parties du pays. Un mot tout de suite sur ce que vous venez d'entendre, l'appel aux patriotes. On reparlera d'ailleurs tout à l'heure de l'élection présidentielle.
Non, je pense que le clivage est clairement dessiné entre l'appel aux patriotes, l'appel au changement. Ça annonce le ton de ce qui va de toute cette ce deuxième tour de campagne électorale. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en 2002 où Jean-Marie Le Pen était face à Chirac, oui, et ce qu'on vit aujourd'hui, on sent qu'il y a une évolution dans la façon de présenter dans le clivage. Autant en 2012 on a vécu la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour comme un séisme politique, l'élimination de la gauche, autant là on semble vivre avec, on semble considérer que ça pouvait arriver et que c'est arrivé. Et puis on voit pour la première fois dans l'histoire politique française, les deux partis de gouvernement, à savoir la droite et la gauche, sont complètement éliminés. On a affaire à des inconnus, ou oui, en tout cas des gens qui s'étaient considérés pour le Front National jusqu'ici comme un parti extrême qui n'a pas vocation à gouverner, et puis un homme qui a fait un parcours personnel, qui a refusé de participer à la primaire socialiste et qui aujourd'hui, avec son mouvement En Marche, se retrouve à quelques pas du palais de l'Élysée.
Alors on va en reparler évidemment tout à l'heure après le flash, Sédic Abba. Alors pour suivre l'actualité africaine, il faut écouter RFI, il faut aller aussi sur le site RFI.fr, fort bien fait, très complet. Rien ne nous empêche de parler du Monde Afrique aussi, monde.fr, parce que là, je le répète, vous revenez du Niger et vous avez consacré 5 grands reportages à la situation de ce pays qui est menacé par Boko Haram, il faut le dire.
C'est tout à fait exact. Et j'ai beaucoup aimé cette opportunité qui m'a été donnée d'aller sur le terrain voir. Pour moi-même qui suis cette actualité, à la fois pour des raisons professionnelles et pour des raisons personnelles, parce que c'est Difa, parce que c'est ma ville, parce que j'ai encore de la famille, le fait d'y être allé m'a permis d'avoir de toucher la réalité de près, de mettre la main dans le cambouis, de voir moi-même comment ça se passe. Puisque je ne suis pas resté que à Difa, je suis allé à Toumour, qui est à 5 km de Difa, ça veut dire 1500 km de Niamey, la capitale. Et puis je suis allé sur les berges du lac, qui sont sur les berges de la Komadougou, qui sont considérées comme la ligne de front. Dans un des reportages, j'en parle déjà, on était à quelques 500, 600 mètres des gens de Boko Haram qui étaient dans le buisson, qui étaient cachés à la frontière entre le Niger et le Nigeria. C'est à peine si on ne voyait pas leur silhouette, et cette opportunité a permis justement de vivre de près, de se retrouver in situ, de voir comment ça se passe, comment vit la population et comment les forces armées s'organisent aussi pour défendre le territoire.
Alors on va en parler bien sûr tout à l'heure.
7 jours dans le monde.
Sadiq, revenons maintenant sur le rapport des services de renseignement français sur l'attaque chimique de la localité de Khan Cheikhoun en Syrie. Il accuse ce rapport le pouvoir de Damas très clairement et il s'agit bien d'attaques au gaz sarin. Muriel Paradon.
D'abord, sur l'agent chimique employé, il s'agit bien de gaz sarin, selon les services de renseignement français. Des échantillons ont été prélevés sur les lieux de l'attaque à Khan Cheikhoun et sur des victimes. Ils ont ensuite été analysés et confirment ce que certains pays et organismes internationaux ont déjà dévoilé. La grande question est bien sûr qui a employé ce gaz. Pour Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, ça ne fait aucun doute. Le régime de Damas est responsable car le procédé de fabrication porte sa signature. Un produit stabilisant a été retrouvé avec le sarin et il serait développé par les scientifiques syriens pour le compte du régime. En outre, les échantillons prélevés à Khan Cheikhoun ont été comparés à ceux d'une précédente attaque en 2013, attaque attribuée à Damas, et ces échantillons correspondraient. Pour la France, les groupes rebelles en Syrie et l'organisation État islamique n'ont pas les moyens de développer de tels procédés, ni les moyens d'ailleurs de les disperser. Et c'est bien un avion militaire du régime qui a décollé de la base de Sherat le 4 avril, selon Jean-Marc Ayrault, et a bombardé Khan Cheikhoun.
Sadiq Kaba, donc apparemment les preuves sont là. Il y a eu une attaque chimique délibérée du régime syrien contre la population.
Absolument. Comme il a été dit dans l'élément, d'autres pays aussi ont déjà porté leurs soupçons. Ce ne sont pas des soupçons. Ils ont même avancé des preuves de l'implication au plus haut sommet, puisque c'est le président Bachar el-Assad qui peut ordonner l'utilisation d'un tel gaz. Donc, ça ajoute au faisceau de preuves qu'on a et ça vient confirmer, puisque on se souvient que l'allié russe avait mis son veto à la décision d'envoyer une commission d'enquête. Si le régime n'avait rien à se reprocher, il aurait accepté assez facilement que la commission d'enquête des Nations Unies vienne le faire. Il a refusé et ces éléments de preuve qui sont apportés aujourd'hui par les services de renseignement français viennent confirmer justement l'implication ça nous amène à penser au niveau de barbarie qu'on a atteint. Quand un régime en vient à utiliser du gaz contre ses propres, et on a vu les scènes quand même épouvantables des jeunes enfants qui ont du mal à respirer parce qu'ils ont inhalé ce gaz. Donc, toute cette situation-là confirme qu'il y a besoin aujourd'hui de trouver une solution urgente, qu'elle soit diplomatique ou militaire, à la situation en Syrie.
Est-ce qui veut dire que la Syrie a menti quand elle a dit qu'elle avait donné, sous l'égide de la Russie il y a quelques années, tout son stock d'armes chimiques?
Tout à fait, tout à fait. Cet épisode-là vient confirmer que tout n'a pas été donné. Qu'à l'époque, on a cru sur parole le régime qui a dit qu'il avait tout donné. On n'a pas pris le temps de vérifier qu'il y a. Donc, il faut peut-être agir très vite pour éviter que ça se reproduise. Parce qu'au-delà aujourd'hui de l'impérieuse nécessité de punir ceux qui ont fait cet acte, il faut leur soustraire les moyens de pouvoir répéter, puisque éventuellement, ils pourraient être amenés à le refaire.
Alors, on parlait des élections tout à l'heure, de l'élection présidentielle, du second tour qui se profile. Une fois de plus, on remarque que la politique étrangère, la politique internationale est absente de la campagne.
Ah oui.
Mais ça se passe partout, dans toutes les campagnes du monde.
Et à des degrés divers. Ouais. La seule politique extérieure.
Une priorité à la politique intérieure.
C'est ça. Je pense que, en observant, on voit que l'Europe est considérée désormais comme dans la politique intérieure française. Les deux candidats qui sont qualifiés pour le second tour s'opposent sur l'Europe. L'un des candidats, Marine Le Pen en l'occurrence, veut une sortie de l'Europe parce que l'Europe est à la base de tous les malheurs. Emmanuel Macron, en revanche, veut une autre Europe, rester dans l'Europe, mais une autre Europe. À part l'Europe, le reste du monde. Et l'Afrique, on n'en parle même pas. La Syrie, à l'occasion d'événements malheureux comme celui-là, on en vient à parler. Mais, par exemple, l'Afrique est assez absente de cette campagne.
Ce qui peut paraître assez étonnant, pour ne pas dire plus, dans la mesure où il y a des soldats français.
Absolument.
Sur le continent africain.
Absolument.
Aujourd'hui.
D'autant plus étonnant que lorsqu'on parle de sécurité, par exemple, puisque la sécurité a été un thème, on ne peut pas évacuer la question de la sécurité de la France commence peut-être au Sahel, puisqu'il y a l'armée française qui a été déployée d'abord dans le cadre de l'opération au Mali, ensuite maintenant qui est toujours présente dans toute cette bande sahélienne, mm-hmm, au titre de l'opération Barkhane avec 3500 hommes qui sont répartis dans plusieurs pays du continent, dont le Niger. On peut considérer que cette question-là aurait dû avoir sa place, sans compter maintenant les liens qu'il y a entre la France et l'Afrique. Il y a 300 000 ressortissants français qui vivent en Afrique. C'est pas peu. C'est quand même important. Quand on met les binationaux, il y a environ 300 000 ressortissants français qui vivent. Et il y a des personnes d'origine africaine qui vivent ici. On aurait pu penser que la campagne, l'Afrique trouve une place légitime dans la campagne. Ça n'a pas été le cas.
Soyons optimistes. Il reste quelques jours. On va espérer que ça se passe, qu'on parle de l'Afrique d'ici le 6 mai.
J'espère qu'on va se ressaisir d'ici le deuxième tour.
Il faut y croire.
Une semaine d'actualité.
Direction le Venezuela maintenant, où comme ces dernières semaines, c'est dit que les manifestations contre le président Nicolas Maduro continuent. Reportage lundi, donc au début de la semaine, de notre correspondant Julien Gonzalez.
C'est sous un soleil de plomb que les opposants ont occupé l'autoroute principale de Caracas pendant plus de 8 heures. Sur place, certains jouent au domino, d'autres lisent. Assise sur l'asphalte, Lorena Guevara échange avec ses amis sur la situation du pays.
Ce n'est pas un jeu. Nous sommes ici pour occuper les lieux. Aujourd'hui, lundi, c'est un jour de travail où nous devrions tous être au bureau. Et pourtant, nous sommes tous en train de faire une parenthèse pour notre pays. Aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent. C'est un sacrifice, mais ma patrie le mérite.
Occuper le terrain, une priorité aussi pour Eduardo Cruz, un commerçant de Caracas, bien conscient que les rassemblements de ce lundi n'apporteront pas de résultats concrets. Mais pour lui, la pression de la rue finira à terme par l'emporter sur le gouvernement chaviste.
La solution la plus démocratique pour sortir de cette situation, ce sont des élections générales. Mais le gouvernement ne veut pas quitter le pouvoir, car il est empêtré dans beaucoup trop de problèmes. Il est coincé face à la justice et il est coincé politiquement. Cela fait plus de 20 jours que nous luttons dans la rue et je crois que nous pouvons continuer comme ça, 20, 40, 60 ou 100 jours de plus. Nous avons de la force pour tenir car le peuple est décidé.
L'opposition a d'ores et déjà appelé à poursuivre les mobilisations dès ce mercredi.
Et effectivement, les manifestations ont continué, ces violences ont fait des victimes, 27 morts depuis un mois à peu près. Le Venezuela qui a annoncé son retrait de l'organisation des États américains accusé d'ingérence. La Turquie maintenant, mercredi, quelques 1000 personnes soupçonnées d'appartenir au réseau du prédicateur Fethullah Gulen, l'opposant de Recep Tayyip Erdogan, ont été arrêtées. Istanbul ce jour-là, Alexandre Billette.
C'est la première grande vague d'arrestations depuis le référendum du 16 avril gagné de justesse par le pouvoir turc. 1000 arrestations lors d'une opération qui s'est déroulée tôt ce matin sur la base de plus de 3000 actes d'accusation. Une opération qui s'est déroulée dans toutes les provinces du pays et qui a mobilisé des milliers de policiers. Les arrestations ont visé essentiellement des policiers, justement des fonctionnaires de police du ministère de l'Intérieur accusés d'appartenir à la mouvance de Fethullah Gulen. C'est peut-être le signe d'une nouvelle série de purge, c'est en tout cas ce que croit savoir une partie de la presse aujourd'hui. Le Premier ministre Bin Ali Yildirim avait évoqué il y a quelques semaines un changement de rythme et de méthode après le référendum pour ces opérations policières. Des opérations qui devraient viser non seulement les partisans de Gulen, mais aussi des milieux de gauche et les milieux pro-kurdes du pays.
Et notez que l'armée turque a bombardé des combattants kurdes dans le nord-est de la Syrie ces derniers jours. Parlons de la Syrie justement, avec, on y revient, Sedi Kaba, avec un bombardement israélien à Damas, près de l'aéroport. Correspondance régionale de Paul Khalife à Beyrouth, jeudi.
Pendant plus d'une minute, une série de fortes explosions a secoué Damas, immédiatement suivie par d'énormes flammes et d'épaisses colonnes de fumée. Selon l'agence russe Sputnik, les déflagrations seraient dues à 5 raids lancés par l'aviation israélienne contre des installations militaires syriennes près de l'aéroport. Des sources de l'opposition syrienne ont également évoqué des raids aériens israéliens. Le gouvernement de Damas n'a fait aucun commentaire. Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël a mené de nombreux bombardements contre des cibles syriennes ou du Hezbollah. L'objectif annoncé par Tel Aviv est d'empêcher les livraisons d'armes au parti libanais pro-iranien. La semaine dernière, des avions israéliens ont complètement détruit une importante base de l'armée syrienne dans la province méridionale de Qunaitra. Le 13 janvier, Damas avait accusé l'État hébreu d'avoir bombardé son aéroport militaire de Mazé dans la banlieue ouest de la capitale. La coalition internationale dirigée par les États-Unis n'a jamais mené de raid contre l'armée syrienne, à l'exception d'une attaque qui a tué en septembre 2016 une centaine de soldats loyalistes dans la ville de Deir ez-Zor à l'est. Les explosions de ce jeudi surviennent au lendemain de l'annonce par la Russie du déploiement d'un système de défense antiaérien polyvalent capable de couvrir l'ensemble de l'espace aérien syrien.
Et à souligner aussi dans l'actualité internationale le début de l'installation du bouclier antimissile américain en Corée du Sud. Suite d'une semaine d'actualité, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de notre ami, confrère Sédic Abba du site monde.fr. De retour du Niger, on va parler de ses reportages sur le Niger tout à l'heure. Le Venezuela, ça fait des semaines que l'on parle dans cette émission chaque samedi et dans nos journaux tous les jours de ces manifestations contre le régime à Caracas.
Non, c'est tout à fait exact. Le pays s'enfonce dans la crise comme s'il était orphelin de Hugo Chavez. Il y a une sorte de descente aux enfers et malheureusement les quelques signes d'espoir d'une solution politique qu'on a vu après des discussions entre le pouvoir et l'opposition se sont envolées et aujourd'hui on est dans une logique de bras de fer qui n'arrange ni les pays ni ceux qui l'ont engagé parce que comme vous l'avez si bien dit il y a 27 morts déjà et si ce bras de fer continue il y aura d'autres morts sans compter maintenant la dimension économique. Le Venezuela qui était peut-être le 5e ou 6e producteur de pétrole au monde il n'y a pas longtemps se retrouve dans cette situation où avec des supermarchés dont les rayons sont totalement vides, des gens qui sont obligés de faire la queue ou le pays même qui est obligé de solliciter ses voisins pour nourrir sa population.
On a entendu aussi cette semaine dans les journaux de RFI des étudiants par exemple, disant, des jeunes vénézuéliens disant qu'ils voulaient quitter le pays.
Les gens venaient au Venezuela il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, le Venezuela, je me souviens, faisait même la charité internationale. Hugo Chavez distribuait de barils de pétrole, des centaines de barils à des pays pour leur venir en aide, des pays de gauche. Il envoyait et aujourd'hui son pays se retrouve dans cette situation. À mon avis, il faut que la raison revienne et que la solution politique soit envisagée parce que le bras de fer n'arrange ni le pouvoir ni l'opposition.
Fuite en avant en quelque sorte aussi en Turquie, Sédic.
Oui, en Turquie, là, le président Erdogan, ayant gagné le référendum qui renforce ses pouvoirs, poursuit un peu cette sorte de nettoyage des partisans de l'ancien prédicateur qui a été son allié, rappelons-le, qui a été pendant longtemps son allié. Et aujourd'hui, au rythme où on interpelle les gens, on risque d'arriver à une situation où il y aura plus de Turcs en prison que de Turcs en liberté. Parce que même si le pays est immense, au rythme où vont les choses, et avec la légèreté avec laquelle on interpelle les gens, me semble préoccupante, au-delà même de préoccupante, me semble révoltante. Des journaux ont été fermés, des radios ont été fermées, des télévisions ont été fermées.
Difficile les journalistes en Turquie aujourd'hui.
On considérait qu'elles étaient du mauvais côté, ou qu'elles étaient mal pensantes. Donc il y a aujourd'hui une situation et le fait que je pense que à un moment le fait que le régime ait voulu adhérer à l'Union européenne l'avait appelé à avoir une certaine retenue. Elle avait appelé à dire, bon, puisqu'on va adhérer à l'Europe, il faut qu'on soit regardant sur des critères qui vont être amenés. Mais là, apparemment, le régime a renoncé à cette adhésion à l'Union européenne et s'est engagé dans cette répression au point où il ne coûte personne. Aujourd'hui, ce régime ne coûte personne, même pas les États-Unis, qui pendant longtemps étaient l'allié historique au sein de l'OTAN, qui pouvait aider, qui pouvait parler à la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie ne coûte quasiment personne.
Après un référendum qu'Erdogan a gagné de façon assez juste, il faut le rappeler.
Absolument.
On en parlait la semaine dernière.
Et on ne sait même pas si les partisans du non ont eu l'opportunité de battre campagne. Dans le contexte d'aujourd'hui, il suffit de dire que de vous coller l'étiquette de partisan de Goulen pour qu'on vous jette en prison.
Sédic Abba, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures cette fois et on se retrouve dans 3 minutes, d'accord?
Absolument.
À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invité, le journaliste du Monde Afrique, Sédic Abba.
Une semaine d'actualité.
Alors c'est dit qu'avant de partir pour le continent africain, nous allons revenir sur le premier tour de l'élection présidentielle française. C'était dimanche soir, doit-on le rappeler, c'était dimanche. Emmanuel Macron, 23,86% des voix. Marine Le Pen, 21,43% des voix. Revenons donc à dimanche soir dans les quartiers généraux des finalistes de ce second tour à Paris avec les partisans d'Emmanuel Macron, Valérie Gass.
Merci à vous. Aujourd'hui, dimanche 23 avril, le peuple de France s'est exprimé.
Être qualifié au second tour et en plus arriver en tête pour l'écologiste Corinne Lepage qui a rallié Emmanuel Macron, c'est une configuration idéale.
C'est formidable qu'il ait battu Marine Le Pen. Je pense que c'est très important pour la dynamique de deuxième tour.
Une campagne pour le second tour face à Marine Le Pen, au bout de laquelle le socialiste Jean-Paul Huchon imagine déjà une victoire.
Être contre Marine Le Pen, je pense qu'il a un socle de légitimité formidable après. Parce que s'il gagne à 60, 65, 70%, c'est possible. Hein.
Dans la salle, les militants, eux aussi, voient déjà Emmanuel Macron à l'Élysée.
Pour le second tour, c'est normalement gagnable.
Je ne vois pas les Français voter pour quelqu'un qui n'incarne pas la République.
Lui veut rester prudent.
C'est ce soir une joie grave, lucide. M'habite.
Comme l'explique Aurore Berger, ex-jupéiste, les prochaines semaines seront semées d'embûches.
C'est que le début d'un renouveau profond de la vie politique française et qui nécessite qu'on se batte sur les élections législatives pour avoir une majorité parlementaire. On ne se fasse pas confisquer la victoire que j'espère on aura dans 15 jours. C'est-à-dire que c'est notre projet qui a été choisi.
Objectif, transformer un vote utile en vote d'adhésion.
Sédic Abba, allons cette fois dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, avec Marine Le Pen, toujours dimanche soir, Pierre Firsion.
Zunter à l'annonce des résultats, les centaines de militants présents chavirent de bonheur. De la joie et surtout du soulagement pour Steve Briouat, le maire Front National d'Hénin-Beaumont.
J'avais toujours un doute de ne pas être qualifié au second tour, donc là au moins c'est fait. On avait face à nous 10 candidats, au moins les choses sont claires maintenant.
Qualifié pour le second tour, Marine Le Pen n'arrive toutefois qu'en deuxième position. De quoi susciter un semblant de déception et d'amertume chez certains sympathisants comme Mario.
Les résultats sont plutôt bons, ils auraient pu être meilleurs, c'est un fait. Bon, je pense qu'il y a un candidat qui a bénéficié de l'appui de tous les médias, sans exception. Et donc, le poids de ces médias est primordial.
Si la candidate frontiste ne dispose que peu de réserves de voix, son entourage se veut confiant, à l'image de Laurent Brice, secrétaire départemental du FN dans le Pas-de-Calais.
Moi, je vois mal les électeurs de Mélenchon aller voter pour un ultralibéral comme Macron, et je vois mal des électeurs de Fillon aller voter Macron. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen peut rassembler très très large.
Pendant 2 semaines, Marine Le Pen va multiplier les déplacements de terrain pour tenter de déjouer les pronostics. Sa stratégie, faire de ce second tour un référendum pour ou contre la mondialisation.
Le candidat des Républicains, François Fillon, a perdu. Il n'a recueilli que 19,94% des voix. Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une percée spectaculaire, le suit de peu d'ailleurs, avec 19,62%. Alors sur l'échec de François Fillon, écoutez ce que disait mardi son rival malheureux à la primaire de la droite, Alain Juppé.
Je crois qu'il y a au moins 2 raisons à cet échec. La première, et il l'a lui-même reconnu, c'est évidemment la personnalité de notre candidat. Je m'étais exprimé à ce sujet il y a quelques semaines, vous le savez. Et la deuxième, c'est aussi la ligne politique. Je crois que la question est de savoir si demain, il y aura à droite une composante humaniste, libérale et européenne qui pourra peser pleinement de son poids. Voilà l'enjeu de cette rénovation. Je ne vais pas jouer le statut du commandeur en disant j'avais raison, etc. J'essaie de me projeter sur l'avenir et de voir comment notre famille politique peut rebondir.
La journée de mercredi a été marquée par une offensive de communication des deux candidats. À l'usine Whirlpool d'Amiens, usine qui devrait être délocalisée en Pologne, un moment important dans la campagne, récit de Guillaume Nodin.
C'est ce que l'on peut appeler une communication de guérilla. Emmanuel Macron l'avait annoncé, il allait passer une partie de sa journée dans sa ville d'origine. Vers 13h, il est dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie pour une rencontre avec les représentants des salariés de l'usine d'électroménager menacée de délocalisation. C'est le moment que choisit Marine Le Pen, qui officiellement a un conseil stratégique à son agenda, pour apparaître avec quelques médias triés sur le volet. Sur le parking de l'usine, pendant quelques minutes, elle enchaîne les photos tout sourire avec les ouvriers et des militants du Front National et se pose en candidate proche des salariés et des ouvriers, tout en dénonçant l'éloignement de son adversaire. Elle repart une dizaine de minutes plus tard. C'est alors qu'Emmanuel Macron arrive à son tour, accueilli par quelques sifflets et quelques marines présidentes lancées par les militants du Front National, restés sur place. Un dialogue s'engage dans cette ambiance un peu tendue et à l'écart de la plupart des journalistes. Il va durer une bonne quarantaine de minutes. Emmanuel Macron dénonçant une utilisation politique de la situation et expliquant que la fermeture des frontières est une promesse mensongère, avant de repartir vers Arras pour une réunion publique dans une région où le Front National réalise d'excellents scores électoraux.
La campagne est évidemment à suivre dans nos journaux avec le service politique de la radio. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sedi Kaba, nous voici donc dans un second tour d'élection présidentielle avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il faut préciser que Emmanuel Macron a fait 40% au premier tour chez les Français de l'étranger. Il a fait son meilleur score en Allemagne avec 56% des voix. François Fillon lui a fait ses meilleurs scores au Proche-Orient, au Liban, en Israël et en Syrie. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête au Mozambique avec 34% des voix. Et Marine Le Pen fait l'un de ses meilleurs scores à Djibouti avec 27% des suffrages. Quel est votre regard sur cette situation politique insolite avec deux candidats qui n'appartiennent pas aux deux grands partis traditionnels en France?
Tout à fait. Nous sommes dans une configuration totalement inédite. Depuis que le choix du président se fait au suffrage universel, avant c'était le Parlement qui désignait, mais depuis que ça se fait au suffrage universel, on n'a jamais vécu une situation où ni la gauche ni la droite ne sont qualifiés pour le second tour. On a vécu en 2002 une situation où la gauche n'était pas qualifiée puisque Jospin a été battu, mais là on vit une situation totalement inédite. Et cette situation inédite est encore plus inédite que 2002, puisque en 2002, je le disais en début de mission, Le Pen est arrivé, on avait considéré ça comme un séisme politique. Vous vous souvenez des manifestations qu'il y a eu, ces gigantesques cortèges pour empêcher l'élection, pour appeler au sursaut. Et là, on avait presque intégré la présence de Marine Le Pen au second tour. Et aujourd'hui, on est même dans une situation, à la différence de ce qui a été dit dans l'un des reportages où on considérait que c'était totalement acquis que Macron va gagner avec 70%, a dit quelqu'un, je n'en suis pas sûr. Aujourd'hui, il y a une hésitation de la part de certains électeurs, de Mélenchon notamment, et il y a aussi des grandes figures de la gauche qui n'ont pas pris position très clairement pour dire, quand on prend une personnalité...
Il n'y a pas de Front Républicain.
Le Front Républicain s'est fissuré. Ouais. Le Front Républicain de 2002 s'est totalement fissuré, et aujourd'hui, même si... on pense qu'au final, c'est Emmanuel Macron qui va gagner. Ce qu'il faut regarder, c'est le score que va réaliser Marine Le Pen. Ce score risque d'être important et ça va être un indicateur. Pendant très longtemps, on a considéré que l'électorat de Marine Le Pen, c'est un électorat marginal qui se trouve en France. Mais là, le score que vous avez donné. Et en plus, j'ajoute, par exemple, que dans un département comme Mayotte, qui est le plus africain des départements français, plus que la Réunion même, de mon point de vue. Et ce département a placé Marine Le Pen en tête parce que il considérait que Marine Le Pen a la solution aux potions d'immigration. C'est comme la progression de Marine Le Pen chez les ouvriers. Les ouvriers sont frappés de plein pied par la mondialisation. Cette usine va être délocalisée, va être amenée en Pologne. Mais pour eux, la solution, c'est peut-être la fermeture de frontières. C'est peut-être justement empêcher que ce qu'on appelle les travailleurs détachés viennent en France. Donc, il y a, face à des problèmes réels, la possibilité que des partis comme le Front National vendent des illusions, pour moi, parce que ce sont des illusions, vendent des solutions totalement illusoires aux populations pour gagner dans les urnes et puis se retrouver concrètement dans l'exercice du pouvoir à ne pas pouvoir tenir leurs promesses.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Avant de partir pour l'Afrique, c'était notre adresse électronique et on va s'arrêter sur quelques-uns de vos messages. Je salue aujourd'hui Apollinaire à Porto Novo, Ibeka au Tchad, Sita à Sikasso. Il s'interroge, Sita, entre Macron et Marine Le Pen, lequel est le plus favorable aux Africains? C'est la question qu'il se pose. Texto. Bonjour à Taïrou, votre fidèle auditeur depuis Mopti au Mali, écrit-il. Je profite de cette émission pour souhaiter un excellent week-end à vous et à vos invités. Merci, Taïrou. Un bonjour également à Léonard à Douala à propos du procès en appel d'Hissène Habré dont nous allons parler dans un instant. Il écrit « Je crois que justice a été rendue aux innombrables victimes tchadiennes. Le véritable drame de l'Afrique, c'est cette immorale impunité dont se croient investis nos dirigeants. » Fin de citation. Un salut à Omar à Yaoundé, à Sini à Dakar et à Sidiki à Bamako.
Une semaine d'actualité.
Et parlons justement, Sédi Kaba, de la condamnation définitive d'Hissène Habré en appel à Dakar jeudi. Guillaume Thibault.
La chambre d'appel.
Son fauteuil est resté vide. Après le silence, Hissène Habré a marqué l'histoire par son absence. En 1h30, le juge Wafiu Gadey a résumé les 228 pages de l'arrêt de la cour d'appel. Son verdict, la confirmation des peines annoncées en première instance.
La chambre d'assises d'appel acquitte Hissène Habré du chef de viol. Cette information partielle n'a aucun effet sur la peine prononcée par la chambre d'assises.
Très remonté à la sortie de l'audience, Maître Mbaye Sen, l'un des trois avocats commis d'office qui ont défendu Hissène Habré, reste persuadé que la culpabilité de l'ex-chef de l'État n'a pas été prouvée.
Vous savez, l'innocence du président Habré a été reconnue par tout le monde.
Pour Maître Jacqueline Moudaina, avocate des victimes, la confirmation de la peine est au contraire tout à fait logique.
Hier, personne n'a pensé que Hissène Habré, qui était le Dieu sur cette terre, pouvait être traîné devant une juridiction. Mais aujourd'hui, les Tchadiens sont rassurés qu'on peut lutter efficacement contre l'impunité au Tchad.
Le volet judiciaire définitivement clos se pose désormais pour les victimes d'Hissène Habré la question des indemnisations, qui sont désormais sous la responsabilité du fonds créé par l'Union africaine, un fonds pour le moment totalement vide.
Partons pour le Niger maintenant, Sédi Kaba. D'abord pour parler de la reprise des cours à l'université de Niamey après un long mouvement de grève dont nous avons parlé dans cette émission. Correspondance de Moussa Kaka.
Nous sommes au point de départ des bus pour l'université Abdou Moumeni de Niamey. L'étudiant Idrissa Awol Ismaël et ses camarades attendent le bus. C'est le premier jour de la reprise des cours.
Là, nous sommes ici, j'attends le bus pour partir à l'université, pour prendre le cours de sociologie générale. Déjà, nos camarades ont été depuis ce matin 8h, ils sont en train de prendre leur cours normalement.
Toutes les facultés ont ouvert leurs portes. Il faut rattraper le temps perdu selon Ali Kanta Sayebou.
Justement, ça donne l'image que le mot d'ordre a été suspendu puisqu'on a commencé à satisfaire certaines revendications. On a déjà repris le cours.
Il faut à tout prix valider les matières. On se bouscule au tableau d'affichage de la fac Rive Gauche, sous les Najim Ousmane.
Comme aujourd'hui, c'est la reprise des cours. Oui, je suis venu regarder les PV. En S2, on corrige des matières à reprendre. Maintenant, pour S1, c'est bon. J'ai vu mon nom, j'ai pu valider.
Devant le restaurant Issaka Kainé, de longues files d'attente sont visibles. Menu d'un ticket de 125 francs CFA, l'étudiant a droit à un plat plus un dessert. Soumana Ali Oumarou, L1 en agronomie, raconte.
Actuellement, on vient de finir de manger et on nous a bien servi. Et à 14h aussi, on va reprendre les cours.
Plus que 3 mois pour la fin de l'année académique et le début des grandes vacances.
Niger toujours avec mercredi une séance de l'Assemblée nationale à huis clos. Les députés étaient convoqués pour discuter d'un rapport d'enquête sur ce que l'on appelle l'uranium gate, un système de vente d'uranium entre Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises mises au jour par le journal nigérien Le Courrier, une opération qui aurait permis à des intermédiaires de gagner de l'argent. L'opposition estime être écartée de la commission d'enquête. Elle a présenté en tout cas son propre rapport. Pierre Pinto.
Dans leur rapport, les députés expliquent que la Sopamine, la société publique qui gère les participations de l'État nigérien dans les sociétés minières, a bien servi d'intermédiaire à Areva pour vendre son uranium. Plus de 320 millions de dollars ont ainsi été versés par Areva sur un compte français ouvert au nom de la Sopamine et un peu moins de 320 millions repartiront vers une société baptisée Optima Energy. Au passage, la Sopamine encaisse officiellement 800 000 euros virés à la Sony Bank à Niamey puis transférés à la présidence où ils auraient servi à acheter des véhicules à la garde présidentielle. Les chiffres évoqués ces dernières semaines de 800 millions de francs CFA ne seraient dus en fait qu'à une confusion du ministre Assoumi Massaoudou qui voulait parler de 800 000 dollars selon le document. Conclusion, tout cela est légal et régulier. Mais l'opposition qui dit avoir été écartée de la rédaction de ce rapport parle d'une enquête bâclée et compte sur une action judiciaire que plusieurs organisations de la société civile tentent d'entreprendre. Quoi qu'il en soit, si le rapport parlementaire nigérien se focalise sur les mouvements de compte de la Sopamine, la justice française, elle, s'intéresse depuis un an et demi à l'ensemble du montage, qui inclut des intermédiaires libanais et russes. Areva, pour sa part, reconnaît avoir perdu 18 millions de dollars dans l'affaire, mais en raison de variations de cours.
Alors nous allons évidemment reparler de cette affaire dans un instant avec Sedi Kaba qui la suit de très près. Il faut aussi rappeler dans l'actualité africaine une information qui nous concerne directement, la condamnation à 10 ans de prison ferme du correspondant de RFI au Cameroun en langue Haoussa, Ahmed Abba, pour non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Fin de citation pour avoir travaillé sur le groupe Boko Haram. Un commentaire, Sedik, d'abord
par c'est un enjeu qui dépasse Ahmed Abba. C'est un enjeu qui concerne l'ensemble de la profession, qu'on l'exerce au Niger ou ailleurs, parce que il est demandé à Ahmed Abba de se transformer en auxiliaire de police, en auxiliaire de renseignement. Si aujourd'hui, moi qui suis allé à Difa pour faire le reportage de Boko Haram, je rencontre un des chefs de Boko Haram pour l'interviewer, je n'ai pas à aller à la police pour c'est pas mon rôle. J'ai fait un travail de journaliste. Ahmed Abba a fait un travail de journaliste en entrant en contact. Moi, ça me rappelle un peu ce que Moussa Kaka aussi a vécu pendant une période où on l'a mis en prison au Niger, parce que on a intercepté des écoutes sur un échange téléphonique avec des rebelles. Un journaliste peut entrer dans le cadre de son travail. Ahmed Abba n'a pas aider à commettre des actes terroristes. Cette condamnation, à mon avis, est gravissime si on la laisse passer. C'est la façon d'exercer le métier de journaliste qui est mis en cause en Afrique et dans cette sous-région, surtout au moment où on a besoin d'informations précises sur Boko Haram, sur ce qui se passe. Il faut aller le plus loin possible. Il faut aller au contact, il faut aller connaître des informations. Et le fait qu'on dise que blanchiment d'actes terroristes ou blanchiment d'informations ou non-dénonciation, Ahmed Abba n'est pas un auxiliaire de renseignement, il n'est pas un auxiliaire de police, il n'est pas un auxiliaire de l'armée pour aller faire de l'information, de l'information pour leur donner.
En tout cas, il a 10 ans de prison ferme.
Ah oui, mais regardez, 10 ans, les gens qui ont commis les actes eux-mêmes ont bénéficié souvent d'amnestie, ont bénéficié, lui on le condamne à 10 ans pour avoir fait que son métier, c'est gravissime.
La condamnation définitive d'Issène Abré vous inspire un commentaire, un bon jugement terrestre et une mise en garde au stock des autres sanguinaires africains, nous écrit Théodore.
Non, je pense que dès le début, dès la première instance, j'avais dit que le procès avait une dimension pédagogique. Ça veut dire que désormais, en Afrique, on ne pourra pas commettre des actes en pensant qu'on ne sera jamais puni. Pendant très longtemps, les gens ont posé des actes, même en tant que ministre, a fortiori en tant que chef d'État, en considérant que rien ne va leur arriver, que du fait de leur fonction, ils vont rester impunis. Et là, c'est le fait que pour la première fois, un ancien chef d'État ait été jugé en Afrique par une juridiction encore qui a été mise en place sous l'égide de l'Union africaine, les chambres extraordinaires, jugées au Sénégal. Je pense que ça, c'est un acquis considérable qu'il faut consolider. Moi, j'avais déjà, à cette époque-là, dit que les chambres africaines ayant été créées de façon ponctuelle, il faut souhaiter leur pérennisation pour que d'autres actes qui auront été commis par d'autres dictateurs puissent un jour être jugés sur le sol africain par des Africains.
Alors, le Niger, parlons d'abord de l'uranium gate, une drôle d'histoire que cette affaire.
Oui, mais ça dit que à mesure qu'on avance, ça devient plus complexe. Là, le nouvel élément de confusion qui vient d'être ajouté, c'est qu'on dit que le ministre a confondu 800 millions et 800 000 euros. C'est ce que dit la commission.
C'est fâcheux.
Avant cela, il y avait une confusion. Le ministre avait dit que l'opération a été montée parce que Areva souhaitait aider le Niger. Or, le porte-parole d'Areva a dit que non, l'opération a été montée parce que eux, ils avaient un client qui leur a demandé un package de fournir la centrale et l'uranium. Ils se sont retournés vers le Niger. Donc, il y a une différence d'appréciation entre sur les motivations de l'opération entre la déclaration du ministre et la déclaration du porte-parole d'Areva. Je peux citer un certain nombre d'éléments qui amènent à considérer que l'opération n'a pas été absolument transparente et qu'aujourd'hui, s'il n'y a rien à cacher, il faut justement permettre que la justice fasse son travail au Niger et en France. En tout cas, en France, comme il a été dit dans l'élément, les juges sont déterminés à faire leur travail. Il faut aussi qu'au Niger aussi, on laisse la justice faire son travail. Si personne n'a rien à se reprocher, la vérité sera établie. Et je pense qu'il est dans l'intérêt du ministre Massaoudou qui a été mis en cause que toute la transparence soit faite. Que s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel aussi, que ça soit établi, qu'il soit totalement blanchi. À ce stade, tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'y a pas quelqu'un qui est coupable de quoi que ce soit, mais une obstruction à la justice peut amener à considérer que c'est parce que des gens ont quelque chose à cacher.
Dites-moi, Sadi Kaba, la reprise des cours à l'université de Niamey, on a parlé dans cette émission et dans les journaux africains de ce mouvement de protestation des étudiants qui a entraîné la fermeture complète de l'université pendant un moment. Cette réouverture doit vous rappeler des souvenirs. Vous êtes passé par l'université de Niamey?
Oui, par l'université de Niamey. On a vécu avec Adam Maina qui est aujourd'hui à l'ambassade, avec d'autres camarades. On a vécu les événements de février 90. En février 90 aussi, à la suite des mouvements que nous avions faits, bon, il y a eu une confrontation. L'armée avait ouvert le feu. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, mais ça rappelle des épisodes de 90, puisque en 90 aussi le campus avait été attaqué. Et je pense que c'est très heureux que le pouvoir ait choisi la voie de l'apaisement. Parce qu'un étudiant est mort, bagalé, paix à son âme. Et il y a eu des actes graves qui ont été commis. Les forces de l'ordre, en tout cas, ont été accusées. Et le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bazoum, a eu le courage politique de reconnaître que la force a été utilisée de façon disproportionnée. Il faut tirer des enseignements de cela. Ça s'est passé en 90, ça s'est passé en 94, ça se passe aujourd'hui. Je pense qu'il faut tirer les enseignements de cela. Et le fait que le pouvoir ait choisi la voie de l'apaisement, que le président lui-même ait repris la main, a permis de trouver cette issue de sortie. Il faut travailler maintenant à tirer les leçons et il faut travailler aussi à tirer les conséquences. Et situer les responsabilités pour que ça ne se repasse pas.
Et en tout cas, on souhaite bon courage aux étudiants de Niamey qui ont repris les cours. C'est dit que quand on lit vos reportages qui sont encore disponibles sur le site lemonde.fr, Afrique, Le Monde Afrique, qu'il faut lire, donc je répète, avec le site RFI.fr, hein, les deux sont complémentaires, on s'aperçoit que le pays, le Niger, donc votre pays, a vraiment été transformé par la menace Boko Haram. Vous avez fait un reportage, votre ville de ma jeunesse merveilleuse engloutie par Boko Haram, c'est le titre d'un de vos reportages. La ville a totalement changé à cause de cette menace.
Ah oui, la ville a complètement changé.
Donc il faut rappeler que Diffa, c'est une ville qui est au sud-est du Niger, à la frontière du Nigeria, à plus de 1000
kilomètres
de Niamey.
1360 kilomètres de Niamey, au sud-est du Nigeria. Une ville paisible qui n'avait jamais connue. Moi, j'ai connu Diffa à l'époque où il y avait une brigade de gendarmerie avec 5 gendarmes, où les gens pouvaient dormir la nuit, la porte ouverte, où les magasins même ne fermaient pas, parce que c'était une ville totalement paisible. Et lorsque en février, le 8 février 2015, Diffa est attaqué par Boko Haram, c'est clair que c'est un bouleversement, c'est un séisme. Et l'État a dû réagir dans l'urgence en décrétant l'état d'urgence dans la région, en prenant un certain nombre de mesures, dont le couvre-feu. Et dans le reportage, je parle de Diffa où on pouvait marcher à 4h du matin, à 5h du matin, où aujourd'hui, on est obligé de se coucher la nuit à 20h parce que le couvre-feu, c'est de 21h à 6h du matin. Donc la ville a été complètement transformée. Il y a une présence militaire qu'il n'y avait pas. Il y a aussi des choses qui ont été totalement transformées. Mais je pense que les conditions du reportage aussi, puisque moi j'ai pu me rendre à Diffa en dépit de ce qu'il y avait avant, et même si moi je n'ai jamais considéré qu'il y avait un contentieux entre le pouvoir nigérien et moi, j'ai pu aller faire le reportage. J'ai même fait une sortie avec l'armée sur les berges du lac et les choses sont celles que vous avez évoquées, des témoignages que j'ai ramenés.
Et avec des témoignages bouleversants, il y a un article consacré à des témoignages de vies humaines brisées par Boko Haram. Hein.
C'est ça, tout à fait. Et ça, ça a été l'épisode. Au-delà même de...
Des gens
de...
qui ont dû quitter leur maison, bien sûr, leur champ.
Oui, au-delà même du choc, le choc que moi-même j'ai vécu en revoyant Diffa que j'ai connu de ma jeunesse et Diffa d'aujourd'hui, les changements qu'il y a. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, et j'ai senti que même si on a beau être professionnel, on a beau avoir beaucoup d'années d'expérience, on reste un homme, c'est les témoignages de ces personnes. Il y a une dame qui m'a dit, un jour, on est venu, Boko Haram est venu partir avec mon mari. Depuis 2 ans, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. J'élève seul mes 5 enfants. Je ne sais pas si je suis veuve pour me remarier. Je ne sais pas quel est mon statut. Est-ce que mon mari est mort? Est-ce que mon mari est vivant? Je ne sais pas. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit je pouvais récolter 120 sacs, assurer les besoins, tous les besoins de ma famille, y compris même des aspects un peu de luxe, acheter des chaussures aux enfants, faire, c'est ça. Et aujourd'hui, je me retrouve à bénéficier d'une assistance. Et il y a aussi ce témoignage d'une personne qui m'a raconté qu'elle ne peut pas rentrer dans la journée à la maison pour éviter de croiser les regards de ses propres enfants, parce qu'elle ne peut pas subvenir aux regards des enfants. Elle ne revient que la nuit, sachant que les enfants sont déjà couchés. Donc, il y a des témoignages vraiment bouleversants du fait de ce que Boko Haram a fait. Heureusement, la seule chose qui est réjouissante avec laquelle je suis reparti, c'est que Boko Haram est presque vaincu. La phase militaire est totalement évacuée. Maintenant, il y a un banditisme résiduel qu'il faut combattre avec les moyens de bord. Mais le défi va être la reconstruction des villages qui auront été abandonnés et il faudra aider le Niger et les populations de la région de Diffa.
Et il faut lire aussi votre interview du gouverneur de la région de Diffa qui dit que la victoire sur Boko Haram ne sera pas que militaire. Merci Sadi Kaba, il faut lire donc ces différents reportages. À bientôt dans cette émission.
Avec grand plaisir, c'est toujours un immense plaisir de venir ici.
Et vous revenez quand vous voulez. Merci Sadi Kaba, une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour Idée et nous serons en compagnie Sadiq d'un passeur, d'un journaliste que vous connaissez bien, qui a su parler du livre, des écrivains, auprès du grand public par le truchement de la télévision. Il s'agit de Bernard Pivot. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.